Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quand je serai grand, je serai astronaute.
Quand je serai grand, je serai actrice.
Bienvenue sur Les Enfants du Bruit et de l'Odeur. Nous sommes deux amis, Ulrich et moi, c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités les problématiques liées au racisme et aux discriminations que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes vivent de la maternelle au banc des grandes écoles. Cet enregistrement a été effectué le 25 mai 2022. Notre invité est Mabula Soumaoro, docteur en civilisation du monde anglophone, spécialiste en études états-uniennes, de la traite négrière atlantique et de la diaspora noire africaine. Maîtresse de conférences en langue et littérature anglaise, ancienne membre du Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage, présidente de l'association Black History Month, elle a aussi reçu le prix littéraire Fedcan Maryse Condé en 2020 pour son livre Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire, publié aux éditions La Découverte en 2020. Pour les enfants du bruit et de l'odeur, Mabula Soumaoro a accepté de partager avec nous une partie de son enfance, de sa scolarité et de son cheminement universitaire. Ses réflexions et son analyse sur le rapport à la famille, à la langue maternelle et aux attentes familiales. Ou encore, de la complexité de nos expériences. Alors je vous laisse vous installer confortablement et vous souhaite une bonne écoute. Mabula Soumaoro, bonjour.
Bonjour Prisca.
Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va?
Ça va, ça peut aller?
Ça peut aller, ça, on tient bon.
D'accord. Écoute, je voulais te remercier d'avoir accepté de participer au podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur.
Merci beaucoup pour l'invitation et merci d'exister, le podcast des Enfants du Bruit et de l'Odeur.
Et je voulais savoir si tu pouvais te présenter à nos auditorices aujourd'hui, expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais.
Alors, je m'appelle Mabula Soumaoro, comme tu viens de le dire. Je suis une femme noire d'origine ivoirienne. Je suis enfant d'immigrés. Mm-hmm. Je suis née à Paris. J'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai grandi pauvre. Et aujourd'hui, je suis docteur et je suis maîtresse de conférences. Donc, j'enseigne à l'université depuis longtemps en France et à l'étranger. Et je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la diaspora noire africaine. C'est-à-dire les populations noires d'ascendance africaine, comme on dit techniquement proches ou lointaines, qui vivent en dehors du continent africain. Et dans mon cas précis, ma spécialité, elle porte vraiment sur ce moment de la traite négrière transatlantique qui a déplacé des populations africaines dans ce monde atlantique. Donc, à l'origine, je suis américaniste, je travaille sur les États-Unis et sur la Caraïbe anglophone. Et puis de plus en plus, je me suis intéressé à ma propre identité de noire de France, au-delà du fait que je sois, je sais pas, africaine, que je sois djoula, ivoirienne. Après les Amériques, j'ai commencé à regarder l'Europe occidentale et vraiment Grande-Bretagne, Allemagne, France. Et depuis, enfin dernièrement, c'est plutôt la France, voilà. Voilà un peu.
Donc tu as pris large pour te recentrer petit à petit.
Ben exactement, presque. Je l'avais pas vu comme ça, mais ouais. Ça a vraiment été au début des études hors de moi et qui m'ont ramené à moi. Et ça, c'était vraiment inattendu.
Et du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui était la petite Mabula? C'était comment ton enfance?
Il paraît que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la musique. J'ai même une photo de moi que j'aime bien, petite, avec un casque sur les oreilles. Les albums de Bob Marley, je m'en rappelle très bien. Mais apparemment, j'aimais le son aussi. Après, ouais, comment j'étais petite? Peut-être curieuse et bavarde. Je voulais tout savoir et je voulais tout dire, je voulais tout voir. Très tôt, je voulais voyager. J'ai dit que j'allais faire le tour du monde. Mm-hmm. Voilà, ça j'ai dit. Curieuse en tout cas, vraiment. Et puis assez dynamique, avec des amis, des activités, du sport. Plutôt gay. J'ai grandi de manière un peu dure, mais en tout cas, je savais profiter des moments de joie. Puis sage, bien élevé, qui travaillait bien à l'école, que les professeurs aimaient bien, les élèves aimaient bien. Nous, on était une famille nombreuse. Mm-hmm. On est 7 enfants. Mm-hmm. On a été élevés par une mère seule. Mm-hmm. Et on a vécu avec d'autres gens qui pouvaient être parents, je sais pas moi, amis, ou qui avaient toujours eu beaucoup de monde chez nous. Et ça, c'était à la fois moins compliqué, dramatique, et aussi paradoxalement bien. C'est-à-dire que j'ai été très tôt habituée au monde, voilà, voire de vivre en communauté. Mm-hmm. Et puis j'ai été très tôt habituée à vivre ou à gérer les problèmes que pose la vie en communauté. Mm. Voilà. Et on était très pauvres aussi. Donc, ouais, la, ouais, cette condition sociale, je l'ai vraiment éprouvée. Parce que ça conditionne les rapports avec les institutions, les demandes, les files d'attente, je sais pas moi, à la CAF, à la mairie, à la, enfin, tout ça, les papiers à remplir, les impossibilités, ce que tu peux pas faire, ce qui n'est pas pour toi, ce pour quoi ta mère n'a pas l'argent, voilà, ce qui est inaccessible, je sais pas moi, un four micro-ondes, on dirait un rêve, l'eau chaude, on dirait un rêve, la moquette, avoir de la moquette, avoir une voiture, partir en vacances plusieurs fois à l'année. Nous on partait, mais avec les bons de la CAF. Et ma mère, elle a toujours mis un point d'honneur à nous. Donc, j'ai vraiment été en vacances. Mais pas, on va au ski ou aux vacances de Noël. Voilà. C'est plus des choses comme ça qui me reviennent. Et puis après, il y a aussi la question de la double culture. T'as une sorte d'ailleurs dont t'entends tout le temps parler, mais que tu connais pas. Et où tu peux pas te rendre parce qu'il y a pas l'argent. Mais qui est très présent physiquement, déjà. Qui est très présent culturellement, culinairement. Enfin... Tu vois, au niveau des, je sais pas, vestimentairement, j'ai envie de dire, tout ça, il y a un truc qui te hante, mais tu connais pas ça à toi, ça t'est familier, c'est même familial, mais c'est...
Tu mets pas des mots dessus, tu connais pas.
Tu connais pas. C'est toi, mais c'est pas toi. Il y a toujours des choses qui viennent du pays, des nouvelles, des gens, des mauvaises nouvelles, voilà. Il y a toujours aussi la question du retour, peut-être, on va rentrer un jour, on va rentrer, toi tu sais pas où, mais... Donc, et il y a ce quelque chose qui existe, mais que t'arrives pas, qui fait partie de toi, mais que t'as jamais vu, par exemple. Ou si tu l'as vu petite, on en a tous été, voilà, qui plane. C'est une partie de toi, mais c'est flou. Et puis après, il y a la partie dehors, qui n'est pas toi non plus, qui a rien à voir avec chez toi. Et je parle des, au même niveau, c'est-à-dire culinairement, vestimentairement, enfin. Et, mais tu connais pas, donc pour moi, c'était hyper exotique.
Par exemple.
Dès que je sortais dehors, enfin, là, l'école, par exemple.
C'était exotique.
Mais, ouais. Non, la cantine scolaire.
Ah, oui, ça, c'est, pour être exotique, c'est, je suis d'accord.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y avait des trucs, j'avais jamais mangé de ma vie. Tu vois, tu manges du chou-fleur, c'est ton premier chou-fleur.
Non, mais oui.
Tu vois ce que je veux dire? Avoir une entrée plat dessert. Entrée plat dessert. Manger, je sais pas, c'est comme si tu disais on n'en mangeait pas en plus à l'époque, mais si on te disait tomate mozzarella, c'était mais je mangeais jamais de tomate, qu'est-ce que c'est que l'eau gazeuse, tu vois, l'eau pétillante et donc moi il y a plein de trucs, je me rappelle qu'à la cantine ils affichaient le menu de la semaine, et tous les lundis j'allais voir le menu de la semaine pour voir ce qu'on, je découvrais plein de trucs, tu vois, après tu prends l'habitude, mais il y a eu plein de premières fois, et ce qu'on faisait, la vie de l'école ou la vie dehors, en tout cas elle avait rien à voir avec la vie de chez moi, et en ça c'était intéressant, et j'en étais curieuse.
Et comment tu faisais cette dichotomie du coup entre l'extérieur et l'interne?
T'avais pas le choix, t'es chez toi, t'es dehors, c'est tout, tu suis les règles de tout le monde, mais c'est vrai que t'as peut-être une conscience inconsciente ou que tu, enfin tu sais que c'est pas les mêmes espaces, et puis ouais, et donc il y a des côtés positifs dans les deux cas et il y a des côtés négatifs dans les deux cas, et puis après il y a des choses, t'as des petits complexes ou t'as un peu honte, en tout cas tu sais que t'es pas la norme, ça peut être un peu dur à porter comme enfant, quand t'es enfant tu sais que chez toi c'est pas comme chez les autres, tu sais que c'est pas blanc, même si après il y avait pas que des blancs, hein, de toute façon, mais il y a un truc comme s'il y avait une norme et tu sais que c'est pas toi,
que tu fais pas partie de cette norme,
mais pas du tout. Tu vois, c'est pas toi, donc tu peux la désirer, tu vois, un peu, beaucoup même, voilà, puis après tu t'y fais, enfin après tu grandis, mais il y a ce truc de, tu sais que c'est, tu sais que t'es dans un entre-deux, Mais et l'entre-deux, même chez toi, quand t'es chez toi, tu fais partie des enfants de France. Tu fais pas partie des enfants du pays. Il y a une différence. Vous parlez pas pareil. Vous vous comportez pas pareil. Vous ne respectez pas de la même façon. Enfin, tu vois, comme si il y avait une déperdition. T'es les enfants qui ont été gâtés par la France ou les enfants qui sont devenus blancs. Tu grandis en région parisienne, mais tes parents, ils sont ivoiriens et eux viennent de quelque part et ils ont leurs habitudes, leur culture, leur certitude. Tu vois, et donc je pense que ils veulent transmettre ou il y a quelque chose comme ça et c'est là que ils s'aperçoivent que cette transmission c'est pas de la magie, que cette transmission c'est pas que du sang, c'est pas que du gène, c'est pas automatique parce que t'es mon enfant, tu seras moi. Non, l'enfant, il évolue aussi dans un environnement et qui peut être fort. Et surtout un environnement si t'es en France, c'est France Côte d'Ivoire, c'est la France qui gagne. C'est déjà c'est la France qui est plus présente. Et c'est la France qui a la force. Et c'est la France qui devient même, tu sais, l'objet de désir. Donc, toi, contre la France, t'as perdu. Toi, je dis toi, le parent.
Voilà.
Tu vois? Donc, oui, nous aussi, ça, chez nous. Bon, ça s'estompe, quoi. Le chez nous, il est petit. Le chez nous, c'est que l'appartement. Après, dehors, il y a un pays.
C'est ça, tout à fait.
Donc,
tu perds des choses. Et puis même, malgré tout, si tu as des amis, même si t'as un entourage, c'est pas suffisant. C'est absolument pas suffisant par rapport à tout le temps que tu passes à l'école.
C'est clair. Parce que, ouais, que ce soit les amis, l'entourage ou même la communauté. Il y avait une communauté de Djoula. Mais c'est pas... Non, c'est pour ça que je disais, c'est pas de la magie.
Non.
En fait, là, tu vois que ce qui se joue socialement dans n'importe quel espace donné. Donc là, si on fait... Nous, on fait des... je sais pas, lecture de Coran ou... je sais pas, mariage... voilà, ou des activités culturelles comme ça, ça va être une fois... Même si tu le fais une semaine, une fois par semaine, il reste 6 jours.
Là, c'est ça. C'est peine perdue. Mais même si c'est peine perdue, je trouve ça important. Moi, je suis née à Madagascar, donc je suis venue à l'âge de 9-10 ans. Quand je veux transmettre quelque chose à mes filles aujourd'hui, ça devient compliqué. D'autant plus que j'ai l'impression que le temps passe et que les choses vont être perdues. Je lui apprends le malgache.
Tu lui as appris depuis qu'elle est petite? Alors, depuis qu'elles sont petites?
Non, un peu, pas énormément. Ouais. C'était déjà très compliqué, on va dire, de devoir parler, une fois que t'étais à l'extérieur de la maison, déjà une autre langue, tu vois.
Ouais.
Et naturellement, en fait, moi, je parlais français. Je parlais malgache, je le réservais vraiment qu'à ma mère. Donc, c'était un truc entre nous et qu'on garde encore. C'est elle et moi, quand on s'adresse à la parole, on le fait vraiment en malgache.
D'accord.
Et c'est resté comme ça, en fait. Donc, quand je m'adresse à d'autres personnes, même à mon petit frère, je lui parle français, tu vois.
D'accord, ouais.
Et à mes enfants... J'ai décidé, en revenant en France, tu vois, là, par contre, j'ai senti l'urgence de leur parler malgache.
Ouais.
Ça faisait déjà... Elle avait déjà 8 ans et c'était déjà un peu plus compliqué.
D'accord.
Et parfois, elle me dit, mais tu me fatigues, en fait. Arrête, j'en ai pas besoin.
Ah, mais ça m'intrigue.
Et
ça m'obsède, cette question de la langue maternelle. Ah, ça, c'est ma question.
Et pourquoi, justement?
Ben, parce que moi, je parle pas la langue de ma mère. Pourtant, ma mère m'a toujours parlé cette langue.
D'accord.
Et c'est pas rentré. Donc je me dis, c'est pas rentré parce qu'il y a eu un blocage, c'est pas rentré parce qu'il y a eu un rejet, et c'est pourquoi c'est pas rentré parce que la langue, je sais pas, cette langue Djoula, elle a perdu contre la puissance de la langue française. Et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas parler la même langue que sa mère? Quand toi, tu viens de dire, justement, moi, avec ma mère, je parle, c'est une autre langue, j'entends l'intimité. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
C'est de l'intimité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas avoir cette intimité linguistique avec sa propre mère? Qu'est-ce que c'est que ce fossé? Et comment tu fais pour... est-ce que ça se rattrape ou pas?
Pour moi, c'était vraiment un processus, d'ailleurs, dès la colonisation. Couper le lien entre la mère et l'enfant, c'était un outil de guerre. Une guerre psychologique. Quand on n'avait plus assez d'argent pour faire une guerre armée, on faisait une guerre psychologique.
D'accord.
Et quand j'ai retrouvé ces écrits, où c'était noté noir sur blanc, qu'il fallait séparer ses enfants de leurs parents en leur enseignant la langue française et en faisant en sorte qu'ils oublient la langue maternelle, parce que la langue maternelle, c'est le lien, c'est la porte ouverte, la clé, la culture, la racine. Et je vois bien, par exemple, quand je parle, ça m'arrive de parler français avec ma mère, et quand je parle français avec ma mère, il y a toujours une tension, et c'est limite si on va pas se disputer, on va dire.
D'accord, ouais.
Parce que déjà, quand j'utilise le français avec ma mère, c'est déjà parce que je suis pas d'accord avec elle et que je suis pas capable d'argumenter assez bien en malgache pour pouvoir
D'accord. Dire, tu vois. Donc tu reprends le pouvoir avec la langue que toi, tu maîtrises.
Ça. Ma mère est imbattable sur le malgache. Tu vois, c'est que elle me... Enfin, peu importe le sujet dans, sur lequel on va parler, elle a tous les éléments. C'est bizarre. L'argumentation, pour moi, c'est du français.
Et c'est quoi ton rapport à la langue malgache, alors? La langue malgache, c'est quoi pour toi?
Alors, la langue malgache, c'est pour moi,
c'est... La langue qui exprime quoi?
L'amour.
L'amour, ouais.
L'amour, ouais. La douceur, ouais. Et la transmission, vraiment. Ouais. Quand je... D'ailleurs, quand je parle à mes filles, je leur ai... La première fois que j'ai parlé en malgache avec mes filles, c'était pour leur chanter des chansons d'amour, de leur dire que je les aimais et tout ça. Et c'est vraiment...
Alors, qu'est-ce que tu fais du fait que tes filles, elles parlent pas malgache?
C'est quelque chose qui clairement me chagrine aujourd'hui, on va dire.
Mais au moins, moi je dis peut-être que toi et tes filles, vous êtes à égalité devant le français.
C'est sûr.
Alors que toi et ta mère, tu parles mieux français que ta mère, ou ta mère elle parle bien le français? Alors, ou quand est-ce qu'elle a appris le français?
Elle a appris le français à l'école. À l'école.
À Madagascar.
À Madagascar, mais. Pas parce que le français est enseigné à Madagascar, non, c'est le malgache, la langue nationale. Mais à un moment, elle a eu quand même des cours de français. Et c'est quelque chose, par exemple, qu'elle m'explique très bien, c'est qu'elle dit sa scolarité a été compliquée parce qu'il y a eu un moment où Madagascar a revendiqué la langue nationale malgache à l'école, mais il y a eu un moment où ils sont repartis au français.
Donc,
il fallait parler français à l'école, et un coup malgache.
Donc elle a quel rapport au français? Elle le parle bien, ou elle a un accent?
Non, elle a un accent, et en plus de ça, oui, bien sûr, elle a le masculin, le féminin, c'est des choses qui sont...
Alors que toi, tu parles français comme tu parles français, même si... tu l'as appris
à l'âge de 10 ans
quand t'es venu.
Voilà,
quand t'es venu. D'accord.
Mais du coup, c'est pas ma langue et je fais aussi des fautes en fait.
Le français, tu le sens comment, toi?
Mais je me suis jamais posé toutes ces questions. Eh ben,
il fallait pas me demander.
Alors juste un truc, le podcast, c'est moi qui pose les questions. Je finis en étant psychanalysée. Mais je l'ai senti quand je suis rentrée chez toi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait se faire.
Je suis en mode psychanalyse.
Non, mais
c'est des questions hyper importantes. Parce que j'allais me dire, tu vois, que est-ce que, en gros, face au français, toi, t'es supérieur à ta mère, même si tu fais des fautes aujourd'hui. Tu vois ce que je
veux dire? Oui, bien sûr.
Alors que toi, face à tes filles, vous pouvez être à égalité devant le français.
Tout à fait.
Donc ça peut être, même s'il y a la perte de la langue malgache, tu vois, il y a un truc où vous pouvez vous retrouver. Moi, je te parlais de ma langue maternelle en disant, ma mère, elle parle une langue que moi, je ne parle pas du tout ou très peu. Tu vois ce que...
Non, mais oui. Donc, il n'y a pas de...
Voilà. Et elle parle très bien le français aussi, mais avec un accent. Mais pour elle, comme pour moi, qu'est-ce qu'on se dit dans chaque langue? C'est-à-dire que la langue la plus profonde et n'est pas la langue que ta mère ou que ta fille parle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment on se rejoint?
Et pour toi, la langue la plus profonde, c'est laquelle?
Celle que je connais le mieux, c'est le français. Ça, c'est à vie. Là, je me suis acheté des bouquins de Bambara et tout ça.
D'accord.
Je me suis dit, je vais apprendre. Mais ça sera pas la langue maternelle. Ça sera la langue de ma mère. Mais pas la langue que j'ai reçue de ma mère. Tu vois, moi, j'ai toujours été bonne en langue. Donc, je dis, j'ai fait du latin, du grec.
Là, tu vas donc t'es en train de me dire que t'étais bonne en langue, mais tu n'arrivais pas à parler la langue que ta maman
t'a. Et c'est pour ça que je dis, ça m'intrigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, tu vois, quand je te parlais de rejet ou de blocage, est-ce que pour moi, est-ce que j'ai intégré le truc de faut pas parler djoula, ou c'est la honte de parler djoula? Ou après, est-ce que ma mère, elle m'a pas assez, je sais pas, parlé ou communiqué, ou tout à l'heure tu parlais de douceur, d'amour, de tendresse, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un truc à ce niveau-là, ou est-ce que c'est que le côté social et historique et politique? Je sais, mais je me dis, comment ça se fait que si j'ai fait du latin, du grec, du russe, de l'allemand, de l'anglais, pourquoi le djoula ne rentre pas, mais il rentre pas grave, quoi, tu vois? Il rentre, mais tu sais, je connais que des mots d'enfant, enfin, tous les trucs de, tu sais, va te coucher, va aux toilettes, habille-toi, dépêche-toi, tais-toi, des trucs. Mais par exemple, je pourrais pas dire la vie, la mort, l'amour, le, tu vois, tout ce qui est abstrait. Tout ce qui est,
Et puis c'est pas une conversation, c'est des directives.
Exactement, tu vois. Donc, aujourd'hui, la langue où que je sens le mieux, enfin, t'es celle qui, si tu veux exprimer un truc de, où tu vas trouver le truc, ça va être le français. Et à côté, juste à côté du français, c'est l'anglais. L'anglais que j'ai choisi, que j'ai, dont je suis tombée amoureuse et que j'ai étudié et tout ça. Et en anglais, il y a des trucs que je sens aussi. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on transmet à partir de tout ça?
Toi, ta mère, elle, tu disais, elle parlait bien français. Donc, il n'y avait pas aussi ce rapport de besoin ou de...
Ah non, attends. Quand je dis elle parle bien français, c'est qu'elle le comprend bien. Mais elle parle vraiment avec un accent et qu'elle l'a appris. Elle l'a appris le français et elle l'a appris genre à 30 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle va me dire des fois des trucs à la télé qu'elle comprend pas. Je la crois pas. Mais tu vois, des fois, elle a ce réflexe. C'est pas sa langue. Si c'est... Le côté facile pour elle, c'est de parler en djoula. Le français, ça reste un effort. Mais elle peut très bien fonctionner en français. Je sais pas moi, aller faire des courses, aller à une administration, tu poses des... Elle parle, mais c'est pas...
Mais c'est pas sa langue.
C'est pas sa langue. Mais elle comprend bien. Et moi, je trouve qu'elle tchatche aussi. Je trouve que dès qu'elle veut plus répondre, elle dit qu'elle a pas compris.
Voilà, c'est ça.
Mais au bout de, au bout de 50 ans de français, je pense qu'arrête, tu vois, que t'as un niveau pas mal. Tu vois, elle a fait des formations en français, des trucs, voilà. Donc, mais, dans ce qui vient de toi, tu vois, dans ce qui vient, dans ce que tu veux exprimer de toi, je pense que c'est maintenant, c'est le français. Et si j'ai, par exemple, si j'avais une langue à transmettre, ça serait quoi? Ça serait le djoula que je vais, auquel je m'agrippe un peu, et que je vais, que je travaille toute seule, tu vois. Et puis après, je pense qu'il y aura aussi, d'autres langues, il y aura aussi de l'anglais. Tu vois?
D'accord. Donc toi, tu transmettrais aussi l'anglais.
Je pense qu'il y a des trucs en anglais. En anglais, en créole, tu vois, anglophone. Après, il y a des petits mots en créole français, en ce que j'ai attrapé un peu du wolof, ce que j'ai attrapé un peu de l'arabe. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus en paix avec ça, de me dire, au lieu de voir juste la perte du djoula et la perte matérielle, tu sais, dramatique et tout ça. Maintenant, comme si je me disais, tu fais avec ce que t'as. Et ce que t'as, c'est bien aussi. Et ce qui a été perdu, c'est perdu, mais c'est pas de ta faute. C'est juste un état de fait. Et il faut faire, il y a qu'avec la réalité qu'on peut faire, pas avec le fantasme. Tu vois.
Mais moi, je vais pas abandonner ce fantasme, je vais apprendre le malgache à mes enfants.
Mais c'est pas un fantasme, alors c'est, tu vas en faire une réalité.
Non, mais oui.
Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Le fantasme, c'est ce qui ne se réalisera jamais.
Petit, j'avais aussi un devoir parce que bah il y a eu des sacrifices, il y a eu énormément de choses de fait derrière, donc il y avait aussi une attente derrière.
Ah oui, mais moi oui ça c'est nos drames à nous. Toutes les attentes, déjà commencer par les attentes matrimoniales, les attentes de style de vie, les attentes au niveau scolaire ou de réussite sociale et tout ça. Ah mais ça c'est tous les trucs qu'on a fait exploser plus ou moins. Enfin pour ceux qui voulaient, ceux qui pouvaient et puis ceux qui devaient. Enfin moi oui, alors là ce truc là de le moment où ta mère elle s'aperçoit que t'auras pas une vie comme la sienne. Et toi aussi où tu t'aperçois et tu ne veux absolument pas avoir une vie comme la sienne, mais ça c'est un moment qui peut être compliqué et c'est des moments qu'il faut assumer. Mais bon, aujourd'hui à mon âge je les ai assumés.
À mon âge.
Mais j'ai 45 ans. Tous les gens me regardent.
T'as pas 70. Alors bon, déjà, je suis surprise parce que je savais pas que t'avais
45. Bah voilà, déjà parce que à ta tête, j'ai vu qu'il y avait un truc de à mon âge. Elle dit ouais, la meuf elle a 35 ans. Je dis non, 45 c'est pas 35. Et je le dis parce que souvent, je trouve qu'il y a comment dire, qu'il y a mal donne. Les gens me disaient, quand je veux dire, et puis tu me dis 45, c'est pas 70. Bien sûr que 45, c'est pas 70. Mais c'est pas comme si, quand t'as 70, on allait dire, 70, c'est pas 80. Oui.
Mais j'essayais de me rattraper parce qu'en fait, je savais pas que
tu vois, c'est pour ça.
J'ai pris une branche.
Et tout ce que je voulais dire pour 45, c'est pas du tout pour faire genre, je suis vieille. Mais je dis 45, c'est pas 25, c'est pas 35. Et je voulais juste dire qu'en 45 ans, tu peux avoir le temps d'avoir éprouvé ou d'avoir accumulé des expériences de... Donc je voulais juste dire que oui, effectivement à 45 ans, tu as eu le temps de régler 2-3 trucs face à tes parents.
C'est vrai.
C'est pas comme si tu avais 20 ans, tu dis est-ce que je vais assumer ma sexualité, mon homosexualité, mon identité, cis ou trans ou tu vois, ou t'es là, 20 ans c'est 15 ou 20 ans là. À 45 ans si tu l'as pas fait, C'est un peu, c'est compliqué.
Ça arrive parfois.
Oui, non, ça peut arriver, mais c'est ouais, compliqué. Moi, je voulais juste dire que en 45 ans, j'ai eu le temps de faire des cheminements. Donc, toutes ces tensions, ces oppositions. Je sais pas, il va falloir que t'annonces à tes parents que, ou tu vas pas être comme eux. Ou tu vas pas répondre à leurs attentes totales. Et justement, parce qu'il y a eu des sacrifices. Mm-hmm. Justement, parce qu'ils ont travaillé comme des chiens, qui sont pas venus pour rien. Tu vois, je pense que, ayant grandi pauvre, il y a plein de choses désagréables que j'ai faites, mais elles étaient temporaires. Et le but, c'était de continuer, par exemple, l'école, de faire tes trucs, et après, d'avoir un bon travail. Mmh. Et après, tu t'octroies même le droit de choisir. Moi, je suis plutôt ci, je suis plutôt ça. Alors que tes parents, ils veulent quoi? Ils veulent un médecin, un avocat, tu vois, peut-être un prof, un journaliste, enfin, des trucs, tu vas pas leur dire, j'ai envie de peindre des tableaux.
Mais je pense qu'on est beaucoup à avoir été ou à être enfermé dans le poids du sacrifice de nos parents, le poids de leur vécu, de leurs attentes aussi.
Ouais, ouais.
Et du coup, ça, tu mets aussi le point sur quelque chose, c'est que, en tant que femme noire, ici en France aujourd'hui, toi, c'est bien, t'as pu le faire, mais je pense qu'on a encore beaucoup à...
Bien sûr.
Mais pas,
c'est pour ça que j'insistais sur l'âge aussi. Je voulais dire aussi que ça a pris du temps. Il y a un cheminement où il y a des trucs sur lesquels, par exemple, je peux être solide aujourd'hui et que ça aurait été il y a 20 ans ou il y a 30 ans, je me la serais pas racontée pareil. Qu'est-ce que je veux dire à mes parents? Tu vois ce que je veux dire à la maison? Enfin, tu vois, là, ça s'est construit. Mais et après, quand je vois des personnes plus jeunes et qui sont première génération, en fait, tu vois, vraiment les enfants d'immigrés. Et jeune, donc, moi, je me dis, je comprends les problématiques de, tu sais, culturelles, les problématiques, je sais pas, liées à la religion, liées à l'avenir, enfin, le truc, on n'est pas des blancs, on parle pas comme ça à ses parents, on part pas de la maison tant qu'on n'est pas marié, tu vois, c'est une vraie pression, ça. Moi, quand t'es jeune et tout ça, je trouve que c'est important parce que sinon ta vie, c'est un désastre, c'est tout. Et que peut-être que même on va dire, si on peut appeler ça du courage, le courage que tu n'auras pas eu à affronter tes parents peut te, je sais pas, te lancer sur une voie qui va t'impacter toute ta vie et qui va te nuire tôt ou tard, même si tu crois que tu peux la supporter parce que c'est la chose à faire. Soit c'est la chose à faire et il y a pas de problème, et dans ces cas-là il y a pas de tension parce que ça t'a rien. Mais si c'était pas la chose à faire, tu vas le payer émotionnellement, tu vas le payer, tu vois, médicalement, mentalement. Tu sais, il y a des trucs qui rendent fous, c'est trop précieux. Et les parents, je pense qu'il faut aussi c'est nous qui les éduquons aussi. Les parents qui ont bougé, les parents, en fait, ils sont obligés maintenant qu'ils ont bougé, ils sont obligés d'accepter le voyage. Ils se sont lancés dans un voyage et ils peuvent pas transporter leur maison ici. Tu sais, genre, ça va être tout pareil. C'est pas pareil, c'est pas le même endroit, et je comprends que ça soit difficile, mais c'est ça le c'est ça le défi. Et si on leur tient pas tête, il y a rien qui bouge. Mais c'est une épreuve, mais je pense qu'elle peut valoir la peine, qui peut jouer en notre faveur quand même. Si on parle des parents, là on parle vraiment de la filiation, c'est l'amour. Pour moi, si les personnes restent inflexibles, c'est que c'était pas de l'amour, c'était du contrôle. On peut parier sur l'amour.
Et du coup, comment était ton parcours scolaire pour en arriver là où tu es aujourd'hui, maître de conférence, enseignante, écrivaine? Enfin, comment ça s'est passé un petit peu tout ça?
Ça s'est passé en plusieurs périodes, et les périodes, elles n'ont pas été les mêmes au niveau du déroulé. En fait, on va dire que, je sais pas, de la maternelle jusqu'au bac, ça s'est très bien passé. Moi, je suis une des jeunes, je suis l'avant-dernière de ma fratrie. Donc, j'avais des frères et sœurs qui avaient été à l'école avant et qui pouvaient m'aider à faire les devoirs. Et on était souvent bons élèves et on allait dans les mêmes établissements, donc on nous connaissait et voilà. Donc vraiment pas eu de problème, et tout un peu encouragé quoi par les profs, parce que un peu exceptionnel, tu vois, cette famille nombreuse où les enfants sont bons, ils sont sérieux. Aujourd'hui, j'y vois un peu de condescendance, tu vois. Donc encouragé à faire de l'allemand, tu vois.
D'accord.
Donc pour l'allemand, enfin maintenant je le sais, mais c'est une façon de faire de la sélection dans le secondaire. Les classes d'espagnol, les classes d'allemand, tu vois. Et les classes d'allemand, il y a moins d'élèves déjà pour commencer. Donc moi en quatrième, classe d'allemand option latin. Et puis je faisais du grec aussi, alors que c'est bien, tu fais du grec, tu fais du latin, t'as un emploi du temps, tu commences à 8h, tu finis à 6h, c'est pour les sérieux, ça, enfin voilà.
Et mais petite question, qui t'a orienté vers ça? Est-ce que c'est tes parents qui ont choisi? Est-ce qu'on te l'a proposé? Parce que beaucoup de parents ne sont même pas au courant.
On me l'a proposé, mais maintenant, enfin, il y a plein...
Aujourd'hui, oui, tout le monde le sait, mais...
Mais j'ai plein d'anecdotes où il y a plein de choses qui se sont passées sans mes parents. On me l'a proposé, mais moi je crois que je voulais être la bonne élève, tu vois. Donc oui, mais c'est pas passé, pas toujours par les voies officielles. Et là, ça a pas été un drame, tu vois. Mais quand c'est dramatique, ça peut aussi se passer de la même façon. Par exemple, au CE1, je me souviens que on m'a changé de classe. J'ai commencé dans une classe et après il y a eu la création d'une autre classe qui était moitié CE1, double niveau, moitié CE1, moitié CP. Et moi, on m'a dit qu'on allait mettre dans cette nouvelle classe et que j'allais être la locomotive de la classe. Que c'était moi, mon rôle. Et moi, j'étais hyper fière. Mais on n'a jamais demandé à ma mère. Moi, je suis rentrée, j'ai dit oui, le directeur, il a dit que j'allais être la locomotive de la classe. Donc pour moi, j'avais été identifiée comme bonne élève et j'avais la responsabilité d'aller tirer même notamment les CP qui allaient être avec nous, d'être le modèle. Tu vois?
D'accord. Ouais.
Mais... c'est pas passé par ma mère.
Il n'y a pas eu de demande.
Non.
Elle n'a pas été impliquée dans cette décision.
Non. Donc, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand j'y pense, en plus, il y avait quand même des Arabes et des Noirs dans cette classe, plus que dans la classe d'où je venais à la base. Tu vois ce que je veux dire? Et le prof qui avait été nommé pour prendre cette classe, c'était un nouveau prof. Il était jeune. Il avait 26 ans. Je me rappelle très bien. Et les autres profs de CE1, elles étaient plus âgées. Et lui, je pense que ça devait être un de ses premiers postes. Ils lui ont donné un double niveau. C'était pas facile. Je me souviens du directeur qui venait le voir parfois dans la classe et après, il tapait dans le tableau, le prof. Enfin, il donnait un coup de pied. Donc, il y avait des tensions. Et je me souviens bien de lui parce qu'il nous avait donné, on l'appelait par son prénom, on le tutoyait et il nous avait dit qu'il avait 26 ans. Et c'est à lui qu'ils ont donné. Donc, c'est un coup de crasse. Voilà. Bon, je raconte cette anecdote parce que il n'y a pas eu de réunion avec ma mère pour dire, on va changer votre fille de classe. Alors qu'on m'a changé de classe. Ça devait être un mois après la rentrée ou un truc comme ça.
Donc, en fait, déjà, tu commençais à être, à te stabiliser avec tes amis et autres et on t'enlève.
Voilà.
Comme ça,
ça n'a pas été un drame pour moi. Mais maintenant, je me dis que institutionnellement, que moi, si j'avais un gosse à l'école, mais c'est sûr que ça se passerait pas comme ça.
Bien sûr.
C'est sûr. Enfin, tu vois. Et que même si ma fille elle rentre et qu'elle me dit je vais être la locomotive de la classe, qu'elle est toute contente, on s'en fout. Enfin, je vais prendre rendez-vous, je vais envoyer un. Enfin, et ça, je peux le faire. Prendre rendez-vous, même envoyer un courrier, envoyer un mail, me débrouiller pour sortir du boulot, pour aller à tel rendez-vous. Ça, je peux le faire. Et ça, c'est des trucs que ma mère, elle pouvait pas faire. C'est ça que j'ai gagné. C'est au-delà de l'argent que je gagne en plus. Qu'elle, qui a toujours été au SMIC, c'est, comment dire, tous ces avantages immatériels, toute cette connaissance du système.
Bah, tout simplement, oui, voilà, la connaissance du système et de faire partie de ce système.
Et d'avoir...
On n'impose pas, en
fait. Voilà, et légitime, c'est-à-dire de prendre... Et que même si on t'en exclut, te dire, vous allez pas m'en exclure et je vais vous prendre la tête, être la parente relou. Il y a Madame Soumoro qui débarque, tu vois ce que je veux dire? Oh, elle nous laisse pas tranquille.
Oui, c'est sûr.
Et en plus je suis prof, donc moi l'école je connais bien.
Oui, voilà.
Et il y a pas, et j'ai pas cette déférence totale devant cette institution non plus. Nous c'était l'école elle a raison, les profs ils ont raison, la France elle a raison, enfin tout a raison. Toi t'es là, j'aime pas Macron, j'aime pas le gouvernement.
Non mais oui, voilà, t'as la possibilité de donner ton avis, de penser différemment.
Ouais.
Et que de toute façon, nous, nos parents, c'était toujours ils ont raison, les enseignants ont raison, l'école a raison. Il y avait un respect et une soumission.
Et
aussi,
une soumission, bien sûr. Et c'est eux, et comme en plus on connaît pas, c'est eux qui nous, enfin ils sont pas méchants, ils sont là pour nous. C'est mieux pour toi. Tu vois.
Tout à fait.
Il y a pas ce luxe ou pas ce privilège de l'esprit critique.
Mais il y avait pas la possibilité
non
plus. Hein.
Non. Bah non. L'enjeu était trop grand. Enfin, et puis tu connais pas.
Moi, je sais que ma mère, c'était la même. Si à l'école, ils avaient dit quelque chose, j'avais pas intérêt à faire de vagues à l'école.
Mais
parce que
clair.
Là, c'était la décision.
Mais nous, c'était, mais vous pouvez les frapper.
Coulé, quoi, en fait.
Nous, ils disaient, vous pouvez les frapper.
Oui.
Ah, c'est ça. Avec les profs qui rigolaient, qui disaient, tu sais que ta mère, elle a dit que je pouvais te frapper. Enfin, tu vois, mais ils disaient, vous pouvez les frapper.
Si elle écoute pas à l'école,
voilà.
N'hésitez pas.
N'hésitez pas, mais ça va pas ou quoi?
Ouais.
Et il y a une prof qui m'a frappé d'ailleurs, une fois.
Elle a dit ta mère.
Elle m'a giflé. Non, ma mère, elle était pas contente. C'était, ça faisait pas partie du deal. Et ouais, il y a une prof qui m'a giflé deux fois.
Mais je me dis, mais elle t'a giflé.
Elle m'a giflé deux fois. Et apparemment, elle avait giflé une de mes grandes sœurs avant. Et...
Ah, donc elle s'est dit, la famille, elle va y passer.
Ouais. Et moi, je, tu vois, c'était vraiment, bah tiens, ça, c'est intéressant. Elle m'a giflé, mais pour rien. Enfin, parce que je parlais, j'étais une bavarde et tout. Elle m'a, je me rappelle, on allait au sport, on était dans le gymnase. D'abord dans le vestiaire, après sur le terrain de sport. Dans le vestiaire, elle nous expliquait des règles ou je sais plus quoi. Et moi, je parlais, je sais plus quoi. Elle m'a giflé et là-haut, elle m'a giflé. C'est-à-dire qu'elle m'a, elle m'a giflé deux fois, mais à un moment, je me suis demandé si elle m'avait giflé ou pas. Tu vois. Je suis
rentrée. C'était tellement énorme, ouais, en fait.
Et je suis rentrée et je l'ai dit à ma mère. Ma mère était pas contente et elle a appelé le directeur parce qu'elle a dit, elle a déjà giflé ta sœur. Je la connais, cette prof. Enfin, donc il y a quelque chose. Elle a été, donc elle a appelé le directeur de l'école pour lui dire. Et le directeur, il a dit qu'il allait parler à la prof et la prof, elle a nié. Et elle a nié tellement fort que Prisca, je te jure, là ça me revient en parlant, je croyais que je me suis dit peut-être qu'elle m'a pas giflé parce que j'ai passé une journée tellement horrible le lendemain à l'école. C'est-à-dire que j'arrive le matin, c'est à l'époque où on se rangeait tous dans la cour et puis chaque prof venait chercher sa classe.
Oui, oui.
Et en fait moi je suis là, je suis rangée comme tout le monde et le directeur il vient me prendre comme ça par dans son bureau, alors que, à l'époque, là, j'étais en CE2. À l'époque, le bureau du directeur, c'est comme si t'allais en tôle, quoi. Enfin, tu vois, t'allais au commissariat. Et, il m'a emmené dans son bureau, et il m'a dit, tu es une menteuse. J'ai parlé à ton institutrice, elle ne t'a rien fait. Tu as dit à ta mère qu'elle t'avait giflé. Ta mère, elle a assez de problèmes comme ça. Pourquoi tu veux lui rajouter des problèmes sur le truc? Tu es une menteuse. Et moi, je pleurais. C'est comme s'il était à son bureau, il était grand. Moi, j'étais sur le siège comme
mais
ça.
C'est horrible.
J'arrêtais pas de pleurer. Après, il a appelé ma mère. Elle dit, madame Soumarou, je suis avec votre fille dans le bureau, c'est bon, genre, elle a tout avoué, c'est une menteuse, il ne s'est rien passé, tout ça. Et moi, je pleurais. C'est même lui qui m'a appris ce que c'était qu'un faux témoignage. Il m'a dit, quand tu continues à mentir comme ça, tu vas être accusé de faux témoignage et t'iras en prison. Et j'ai tellement pleuré, Prisca. Après, il m'a dit, va dans ta classe. Parce que quand il m'avait pris comme ça devant toute l'école, là, ma prof était là, elle a dit, oui, prenez-la, monsieur le directeur, moi, je veux pas de ça dans ma classe. Donc lui, il m'a emmené, il a fait tout ce que je t'ai dit. Après, il fallait que je retourne dans ma classe et je suis arrivée. Et je suis rentrée et elle a continué, elle m'a crié dessus. Elle a dit, comment t'as pu raconter ça à ta mère? Je t'ai rien fait. Est-ce que t'as un témoin? Évidemment, j'avais plein de témoins. Tout le monde se l'est fermé.
Mais les autres, ils avaient vu et ils ne disaient rien. Non. De peur.
De peur. Et ça, je leur en ai jamais voulu. Parce que franchement, ça a duré toute la journée, cette histoire. Elle a continué à me crier dessus. Elle fait, moi, je t'ai rien fait. Et elle dit, les enfants, qu'ils soient noirs, jaunes ou verts.
Ah oui, ça, vert. Cette couleur.
Tu vois ce que je veux dire?
Moi, je vois pas la couleur.
Voilà. Mais personne
ne lui avait dit quoi.
Mais personne. Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais pensé à ça, à ce moment-là. J'ai dit, la prof, elle m'a donné deux claques. À moi, je me suis pas dit parce que je suis noire ou, et elle, à un moment, dans tout ce qu'elle m'a sorti, elle a dit les enfants qui soient, je sais pas, des blancs, noirs, jaunes ou verts, ou, enfin, des roses, verts, enfin, toutes que des couleurs qui n'existent pas. Elle a dit ça. Et après, elle a dit, je ferai jusqu'à la fin de l'année, je ferai comme si t'existais pas.
Mais c'est une adulte ou c'est?
Ouais, non. Tu ne nettoieras plus le tableau, tu sais, c'était genre, tu ne distribueras plus les cahiers, tu nanani, nanana. Après, elle criait tellement qu'il y a la prof d'à côté qui est venue, qui est arrivée, qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ouais, elle a dit à sa mère que je l'avais, giflé et tout ça. Ah, c'est qui? C'est une petite sous-marin. Ah oui, je les connais. Enfin, voilà, c'était. Et moi, je pleurais. Et j'ai passé toute la fin de l'année à essayer de lui plaire.
Mais je trouve ça, enfin, de toute façon, il n'y a rien qui va, en fait, hein. du comportement du directeur et de menacer l'enfant, en fait. Clairement, c'est de la menace ouverte en disant, bah, puisque tu as été dénoncé, sache que tu seras puni.
C'est ça. Et après, bah, je me rappelle, j'ai une copine, Virginie, elle m'a dit, ouais, non, elle t'a giflé, mais franchement, j'ai eu trop peur. Et j'ai dit, ouais, je comprends. Enfin, je veux dire, je comprenais. Voilà. Et ma mère, quand je suis rentrée le soir, je lui ai expliqué, elle a dit, je les connais, ils ont fait ça à ta sœur, je te crois, et tout ça. Mais bon, elle a pas été les voir, tu vois, elle a pas fait de scandale. Mais pour elle, c'était pas la première fois. Et peut-être maintenant, je me dis, elle sait qu'elle peut pas gagner. Mais je me suis, ouais, je me suis dit, moi, ma mère, elle m'a cru, mais je me suis aussi dit, ma mère m'a pas défendu, tu vois.
Dans ton livre, dans son, tu dis que dans ton sujet de recherche, t'as voulu en fait faire des recherches justement sur l'histoire des personnes noires en France, et que ça a posé problème à un moment.
Même pas, c'est même pas en France, Prisca. C'était, c'était aux États-Unis ou c'était dans les Amériques. Moi, je voulais travailler sur les Afro-Américains et les Afro-Jamaïcains. Et je voulais travailler sur le nationalisme noir et la religion. Donc, je travaillais sur la Nation d'Islam aux États-Unis et le mouvement Rastafari en Jamaïque. Donc, c'était même pas moi. Mais j'étais quand même noire, tu vois. Et donc, on m'a dit non. On m'a dit que c'était pas un sujet valable. Clair et net.
Pas pour toi, quoi.
C'était pas pour moi. Et jusque-là, c'est pour ça que je te parlais de moments. À part le drame du CE2, moi, ça s'est bien passé, l'école, jusqu'au bac. Après, quand j'ai fait mes études supérieures, ça s'est bien passé aussi. À part une fois où j'ai clairement été discriminée lors d'un examen. C'est-à-dire que je devais passer un oral et c'était en littérature. Et il y avait un livre que j'avais pas lu. Je faisais des études d'anglais et je l'avais pas lu, pas parce que je voulais pas lire, mais juste parce que j'avais rien compris. Et donc je suis arrivée à l'oral en disant au prof, j'ai pas lu ce livre parce que voilà, j'ai rien compris, mais je peux très bien être interrogée sur un autre livre et qui, tu vois, je me disais qu'ils tiennent compte de ce truc. Le mec, il m'a mis zéro direct. Je dis, ah d'accord, il est méchant, mais bon. Et sauf que après moi, il y a une meuf qui est arrivée et qui n'avait pas lu un des livres et qui a dit, ouais, monsieur, je peux pas passer sur ce livre. Et il l'a fait passer sur un autre livre. Et là, il y avait un témoin. On n'était plus en primaire où tout le monde flippait. Là, il y avait une copine. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, pour te dire, tout à l'heure, quand le prof t'a mis zéro, la meuf qui est venue après toi, il l'a interrogé sur un autre livre. Et moi, je témoignerai pour toi. Enfin, voilà.
Waouh.
Et donc j'ai été voir, j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice du département et tout de suite elle m'a dit non mais vous avez raté l'écrit, de toute façon ça change rien. Je dis non, c'est pas la question, pourquoi? Non mais enfin tu vois, elle a noyé le poisson. Après elle m'a dit non, on a fait notre enquête et cette étudiante en fait c'était une redoublante, donc elle avait le droit de... Je dis ah d'accord, donc quand moi j'ai passé le rattrapage là en littérature, eh ben j'aurais le droit de pas lire ce livre-là. Oui, mais c'est pas ce que je veux dire. Enfin voilà, c'est tout.
Puis leur enquête, c'est ce que ça veut dire.
Sachant que moi-même, je suis dans un département d'anglais. Si moi je te dis que je mène une enquête, c'est-à-dire que j'ai parlé à deux personnes, quoi.
Non, puis ça, franchement, ce truc, on a mené notre enquête.
Ouais. On connaît.
Ouais.
Non, mais avant qu'on commence la discussion, c'était de toute façon, vous avez raté l'écrit. C'est parce que c'était un écrit, un oral. Elle a dit, non, mais donc ça n'aurait rien changé. Moi, je dis, c'est pas ça, c'est juste... Le mec, quand il m'a mis zéro, j'ai accepté. J'ai dit, bon, d'accord. Mais pourquoi l'autre, elle a eu le droit et pas moi? Et inutile de te dire que l'autre derrière, elle était pas...
Elle était pas
noire. Et mon soutien, le témoin, elle était noire. Elle a capté. Bon, bref, donc à part ça, c'est seulement, tu vois, après la maîtrise, après le DEA d'ailleurs, ou pour le DEA, pour entamer en tout cas un doctorat, je voulais travailler sur les Amériques noires, comme on dit, et on m'a dit non, mais on m'a juste dit que c'était pas un sujet valable. C'est tout. On m'a pas dit parce que
pourquoi
t'es noir.
C'était pas valable.
Mais genre, non, si vous voulez étudier les Rastas, il va falloir faire de l'ethnologie. De l'ethnologie, ouais. Faut changer de cursus. À la rigueur, la Nation d'Islam, tout court. Et puis surtout, vous pouvez pas travailler sur la Jamaïque et les États-Unis en même temps.
D'accord. Et pourquoi?
Parce que c'est soit les États-Unis, soit la Jamaïque. Et il vaut mieux que ça soit les États-Unis, parce que la Jamaïque, tout le monde s'en fout, en fait. Là, c'est vraiment là que j'ai compris la hiérarchisation des savoirs. Tu sais, il y a des aires géographiques, des espaces dont on se fout. On s'en fout, parce qu'on s'en fout aussi de ces populations. Tu vois, tu n'étudies que les populations qui comptent, en fait, ou ceux qu'on va pouvoir utiliser en contre-modèle. Tu vois, ou la chose à pas faire, ou, mais sinon, je sais pas, qu'est-ce que...
Puis la Jamaïque, Rastafari, Bob Marley en chanson, ça va bien, mais en fait, de comprendre pourquoi...
Exactement,
tout ça,
de vraiment étudier, observer, dire, c'est autre chose que, je sais pas moi, un universalisme bébête et de la ganja, et tout le monde est foncedé, tout le monde, tu vois, d'où ça vient, et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, non, c'est facile, ça, y a rien à dire, c'est facile. T'es malade ou quoi?
C'est pas plus, c'est pas plus profondeur. Recherché que ça, en fait.
Ouais, y a pas de profondeur, alors que c'est d'une profondeur, c'est faux. Enfin, toutes les Amériques sont d'une profondeur. Mais c'est là que j'ai commencé vraiment à me rendre compte de la, voilà, la valeur qu'on associait au savoir qui était indexée à la valeur qu'on associe à des populations. Mm. Et c'est tout. Et il y a des populations qui comptent pas. Mm. Des populations qui sont pas assez complexes, mm-hmm. qui sont pas assez sophistiquées. Mm. Et souvent, c'est des populations pas blanches. Mm. Souvent. Pas que, mais souvent, tu vois. Et donc, on m'a dit non, c'est tout. C'est... On m'a dit non, on peut pas faire ça.
Toi maintenant, qui est enseignante aussi, qui est maître de conférence, mmh. ça se passe comment, la façon dont tu vois un petit peu l'arrivée des élèves à l'université? Est-ce que tu as l'impression que les choses ont changé, qu'il y a plus de personnes noires, racisées, qui arrivent dans des cursus, on va dire, universitaires? Ou est-ce que tu as l'impression que cette désorientation qui commence dès le collège se produit toujours?
C'est intéressant, parce que moi, ma perspective, elle est sur 20 ans. Mm. Donc, sur 20 ans, je peux pas mentir, il y a une évolution positive. Mm-hmm. Moi, je suis allée au départ dans une fac de banlieue, par exemple, et c'était pas une question qu'il y avait pas, de noir, d'arabe ou d'asiatique. Mm-hmm. C'est qu'il y en avait jusqu'à un certain niveau. Et qu'à partir de, aujourd'hui, ça serait équivalent du master, il y en avait plus. Mmh. Et je te parle d'une fac de banlieue, où vraiment première année, première, deuxième, troisième année, c'était clair. À partir de la quatrième année, non. Mmh. Je m'en rappelle vraiment que master 1, master 2, on n'était pas beaucoup de noirs ou d'arabes. Mmh. Plus par rapport à la première année, tu vois. Aujourd'hui, t'en vois. Ce que je vois pas trop, c'est des gens pas blancs, maîtres de conférences. Mmh. J'en connais pas des masses. Après, il y en a qui arrivent à faire. Non, il y a des jeunes qui arrivent à passer, mais c'est compliqué parce que je trouve que il y en a et ils exigent, et ils ont raison d'ailleurs, plus de choses. Mmh. Moi, c'est-à-dire que quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je savais que j'allais pas avoir de bourse. Mmh. Mais je le savais, donc je pense que j'en ai même pas demandé.
D'accord.
Et aujourd'hui, ce que je croise, ils se plaignent de pas en avoir. Mm. Donc ça, c'est une avancée. tu vois ce que
C'est que déjà, ils disent que c'est pas normal.
Voilà, c'est exactement ça. Mais ils ont toujours pas. Mais en tout cas, ils disent oui maintenant. Enfin, ou je ferai pas de thèse si j'ai pas de bourse et tout ça. Que moi, c'était sûr que j'allais pas en avoir et que je l'ai faite sans bourse. Mm.
Que t'as dû faire un crédit, c'est ce que tu dis. Non, c'est pas.
Le crédit, c'était pour autre chose. Le crédit, c'était pour aller aux États-Unis. Mm. C'était pour aller aux États-Unis. Mais du coup, j'ai toujours travaillé, en fait. Je travaillais même depuis le collège. Donc, voilà. C'était pour aller aux États-Unis. Mais voilà. Mais donc, oui, ça a changé parce que les gens sont. Ça a changé parce que ça ne peut que changer parce que c'est démographique. Mm-hmm. Les gens, ils sont là. Point. Mm. Donc, pas de plus en plus, je sais pas comment dire, c'est pas qu'ils sont plus là, mais c'est que avec les, on va dire statistiquement, mm-hmm. puisque des gens qui sont arrivés ont des enfants ou qui ont des enfants et que les, dans la grande majorité, les gens ne repartent pas, mm-hmm. bah il y a un moment avec les années, bah il y a des gens, ils vont avoir 18 ans, ils vont mm-hmm. avoir le bac, mm-hmm. et puis ils vont avoir 25 ans, et puis c'est tout. Donc tu vas aller plus les voir à l'université ou plus les voir sur le monde du travail ou plus les voir.
C'est puis pas il y a quoi. La maîtrise aussi, la ouais. maîtrise bah, du pays. Là où nos parents sont arrivés et n'avaient pas forcément toutes les règles du jeu,
ouais.
nous sommes ici et nos enfants auront aussi...
Bien sûr, voilà. Il y a un ancrage. Mm. Il y a un ancrage. Mm. Donc, bien sûr que c'est censé se passer différemment. Donc, ouais, il y a des avancées. Après, la question de la mauvaise orientation au niveau de l'école tu vois, secondaire, bien sûr que ça continue. Mm. Enfin, il y a des filières où tu vois plus... tu vois, un type social ou un type racial, mm-hmm. de toute façon. Et quand les deux vont de pair, voilà. Mm. C'est ça, c'est vrai. Et il y a dans tous les endroits élitistes, il y a moins de gens pas blancs. Mm. Ça, je le vois, je te dis, à l'université, selon les niveaux d'études. Ça, je le vois dans les autres endroits. Moi, j'ai enseigné à Sciences Po, par exemple. Mm-hmm. Je le vois à Sciences Po, je le vois dans, voilà. C'est tout, ça existe encore. Mais franchement, ça progresse. Moi, les histoires qui me sont arrivées il y a 20 ans, je sais qu'elles continuent d'arriver. Mais au moins, les gens en parlent, au moins, il y a plusieurs personnes.
Plus de dénonciations.
Plus d'attentes, tu vois, plus d'exigences. Mmh. Alors que moi, je trouve que je faisais aussi partie de la génération de... Moi, on n'a pas arrêté de me dire, c'est pas mal pour vous. Mmh. Ça, c'est déjà, c'est bien.
C'est déjà bien, ouais. Faut déjà dire merci, quoi.
Voilà. Non, mais toi, c'est déjà bien. Dans... Tu peux être prof d'anglais, passe l'agrégation, c'est déjà bien. Mmh. Tu veux être docteur, bon, pas...
On ne demande pas trop, quoi.
Voilà, ça va. Tu veux être docteur...
On a ouvert les portes, ne nous prends pas le bras.
Voilà, et mettre de confiance... Tu vois, c'est... Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les gens, ils disent, ouais, j'ai envie de faire ci, je sais. Mais ça reste dur, hein. Ça reste dur.
Et justement, maintenant que tu es maître de conférence, autrice, que tu fais, en fait, énormément de choses et que professionnellement, on va dire, je sais pas, peut-être pas, mais que tu es épanouie.
je t'apparais pas épanouie.
Si, si, mais en fait, je me dis, c'est peut-être moi qui,
qui projette.
Est-ce que tu trouves que, parce que on nous dit souvent, hein, qu'en réalité, on nous dit souvent, du moins je l'entends régulièrement, que ce n'est pas le racisme qui change les choses, que c'est une question de classe et non pas de racialisation, on va dire. Est-ce que tu dis, toi, aujourd'hui, que le racisme ne joue plus, que la couleur, en fait, hein, ça paraît peut-être idiot comme question, mais peut-être que les gens ont besoin de l'entendre aussi. Est-ce que tu estimes que ta couleur, en fait, être noir aujourd'hui ne pose plus de problème à partir du moment où tu es une trans...
Fuge.
Ouais, une transfuge, voilà.
De classe. Transfuge. Mais ça va pas. Enfin, c'est les gens qui disent ça, mais alors là, non. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire de... Je vois pas, quand les gens disent ça ne joue plus, à quel moment ça s'est arrêté de jouer? Et à cause ou grâce à quoi c'est arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grande révolution? Il y a eu une grande prise de conscience? Il y a eu vraiment une politique volontariste? Ce plus-là, il joue à quoi? À quel moment ça s'est arrêté? Comme quand les gens disent c'est le retour de la race. Elle était partie quand?
Jamais.
Tu sais pas, parce que vous avez arrêté d'y penser ou d'en parler, que ceux, en tout cas, qui sont négativement racialisés, ont arrêté de la vivre. Mm-hmm. Non, non, non. Moi, justement, en étant maîtresse de conférence, je sais exactement ce que ça veut dire que d'être une maîtresse de conférence noire. C'est-à-dire qu'on sait pas que c'est toi la maîtresse de conférence. Mm-hmm. Ou si c'est toi la prof, peut-être que t'es pas la vraie prof. Mm-hmm. Peut-être que t'es la remplaçante, ou peut-être que t'es une prof, t'es une doctorante à qui on a donné des cours, que t'as pas tous tes diplômes, que t'es pas comme tout le monde, que toi t'es cantonné aux enseignements de première année. Il y a pas de maître de conférence qui font que de la première année. Mm-hmm. Une fois que t'es maître de conférence, tu peux enseigner de la première année au doctorat. Mm-hmm. Et donc il y a plein de choses comme ça qu'on va te dire. Vous enseignez en première année, n'importe quoi comme toi. Enfin, je peux enseigner partout ou. Elle est pistonnée, ou son doctorat, sa thèse de doctorat est mauvaise. Enfin, tu vois, donc non, je vois pas. Et puis surtout, moi, puisque je fais des apparitions dans les médias, et Prisca, les gens, ils pètent les plombs. avec ces apparitions, je reçois des courriers, et des courriers, principalement, j'ai envie de dire, à l'université. C'est-à-dire que les gens ne se remettent pas du fait que je sois maître de conférence. Ils demandent ma mise à la porte. Il m'insulte, des photos de singes, des trucs, mais tu vois bien que ce qui les gêne, c'est le titre. Alors ça va devenir l'université n'est plus ce qu'elle était. Enfin, tu vois, dès que t'y es, tu vois, c'est un peu comme il y avait c'était un vieux son de Booba à l'époque. C'était Booba ou Lunatique où il disait, je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier.
Oui, c'est ça.
Et ben nous, dès qu'on arrive quelque part, c'est plus voilà, t'es à l'université, donc c'est un faux doctorat. Ah maintenant le doctorat ne vaut plus rien. Ah non, mais les intellectuels ne sont plus ce qu'ils sont. Oui, alors t'es dans le New York Times. Ah ouais, mais le New York Times, c'est plus trop ça. Hein. tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, c'est toi qui contamines et tu contamines par ton apparence et par ton corps. Donc les gens, justement, quand t'es en position pour eux et même symboliquement dominante, c'est-à-dire que t'as accès à la parole publique, et t'es dans les médias mainstream, t'es une femme noire. Et après c'est une combinaison de plusieurs choses parce que c'est pas que la race. Mais si t'es une femme noire d'un certain statut, pour que le statut soit validé, il faut vraiment que tu rentres dans les rangs. Et si t'as un discours critique, ah mais là tu vas devenir la négresse, la c'est tout. Donc c'est pas que la race, mais c'est aussi la race. Si t'es noire et que t'arrives dans certains cercles, il faut que tu te comportes d'une certaine façon.
Il faut être reconnaissant.
Voilà,
il faut être pas faire de vagues.
Pas faire de vagues, tu vois tout ça. Et si t'es noire et que tu te permets certaines choses, là on va te dire que t'es noire. Tu vois, moi ce qui ressort toujours, c'est pas seulement on n'est pas d'accord ou avec cette analyse, tu vois, un débat intellectuel, c'est non. Pour qui elle se prend, avec tout ce qu'on a fait pour elle, pourquoi elle retourne pas en Côte d'Ivoire, la négresse, le singe, donc ma couleur entre en jeu. C'est pas la question des idées seulement, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être blanc par exemple et partager les mêmes analyses ou les mêmes idées, on pourrait le dénoncer ou la dénoncer, ne pas être d'accord avec cette personne, mais on lui dirait pas retourne dans ton pays ou donc c'est quoi la différence entre ces personnes et moi, c'est la couleur de la peau.
Oui, et puis on lui dirait pas tu n'aimes pas la France.
Voilà.
Une personne donc, blanche qui critique la France, on lui dirait jamais tu n'aimes pas la France.
Exactement. Et pourquoi on parle d'amour avec la France, ça je comprends pas. L'amour n'a rien à voir dans cette histoire. On n'est pas là pour s'aimer, on est là parce qu'on est là. Après, on peut s'aimer ou pas.
C'est
un mariage forcé. Et on va faire, on n'est pas rebelle, personne va se barrer, et ben, donc on est là ensemble, et ben, on va faire ce qu'on peut. Mais, non, mais pourquoi on parle toujours d'amour? Alors que la question, elle est éminemment politique. Pourquoi on vient me parler d'amour?
Oui, puis on ne demande jamais ça à une personne blanche.
Mais
on
ne
lui
ça,
dit jamais qu'elle n'aime pas la France ou que.
Et puis même si, et même si je disais j'aime pas la France, mais je suis obligée d'aimer la France. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis née.
Je vais couper, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Non, tu peux le laisser, je l'assume. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis née ici, c'est un hasard. Et que moi, je crois pas au truc de la, tu sais, de la destinée, de truc. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'histoire, il y a les migrations, il y a les circulations, les mobilités. Je suis née ici. J'aurais pu naître ailleurs. Où tu nais ne dépend pas de toi. Tu peux naître dans un endroit, mourir dans un autre. C'est tout. Nos parents sont nés dans un endroit, mourront dans un autre. Et on est encore en train de se demander où est-ce qu'ils seront enterrés. On est encore dans ces générations-là. On les enterre ici, on les renvoie au pays. Est-ce qu'il y a des gens au pays qui les veulent ou il y a plus personne au pays? L'histoire d'immigration, c'est pas un débat sur CNews. C'est pas un truc pour faire le buzz. C'est nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire de rapatrier un corps? Et rapatrier un corps au niveau financier. Ça coûte, ça coûte cher. Et ça coûte cher. Et donc, t'es venu, t'as réussi ou pas? Est-ce que t'as pu participer, je sais pas, une initiative collective et c'est bon ou non? C'est tendu. Et qui va mettre pour toi? Et après, quand on renvoie ton corps, est-ce que il reste assez de gens au pays? Ou en fait, tout le monde est parti? Ou après, les gens qui sont, comment dire, ici, qui vont dire, non, mais maintenant, mes enfants sont ici. Et on n'est pas rentré au pays. Et le mythe du retour, le fantasme et tout ça, ça a foiré. On a cru qu'on allait repartir, on n'est jamais reparti. Maintenant, j'ai mes enfants là, je reste là. C'est ça les histoires. Ça, c'est concret. C'est pas une histoire de oui, les immigrés veulent le nanani. Non, les immigrés vivent. Ils meurent. Enfin, ils vivent. Ils meurent, ils se marient, ils divorcent. Ils ont des enfants, ils gèrent ça. Ils gèrent ça. Et quant à la question des espaces multiples, et ben voilà, c'est des questions qui se posent. Et si t'es noir, il faut que tu sois noir d'une certaine façon. Sinon, c'est pas possible.
Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On nous enferme dans des cases et on n'a pas le droit d'exister.
Exactement.
Et on n'a pas le droit, pour en soi. Fait, exactement, pas pour soi. On doit être formaté dans quelque
c'est
chose.
C'est ça, dans un fantasme qui est le leur et qui a rien à voir avec nos expériences de vie réelles, concrètes. Tu sais, ils n'arrivent pas à voir. La complexité d'exister, enfin c'est pour moi c'est ça la déshumanisation, c'est ça le fléau du racisme. Souvent quand les gens ils parlent de la déshumanisation, c'est genre on va penser au cas extrême, tu vois, par exemple tu prends les violences policières ou qui on tue plus facilement, et ça c'est réel, tu vois, mais la déshumanisation insidieuse, c'est quand on te retire ta complexité d'être humain. Pourquoi pour eux ils peuvent comprendre que il y a, je sais pas, quelqu'un est pétri de paradoxes, il a fait ci, il a fait ça, a eu cette période nananina, et pour nous ou dans certaines catégories vont dire, je sais pas, musulman ça veut dire ci, ça, ça, noir c'est ci, ça, ça, femme c'est ça, 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 trans c'est ça, c'est ça, comment dire, homo c'est ça, 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 pauvre c'est ça. Mais ça va pas. Et si, je sais pas moi, et si t'es trans, invalide, noir et musulmane et homo
et pauvre.
Les pauvres. Tu vois ce que je veux dire? Ou même, je sais pas, riche et banlieusard et vois? C'est la vie, vous êtes fous, vous croyez que ça n'existe pas? Et tu dis, mais si ça existe parce que j'existe. Ma vie.
Mm-hmm. Elle démontre ça. Oui, mais non, mais parce que, je sais pas, moi, les...
L'exception qui confirme la...
Voilà, ou les immigrés, ils aiment pas la France. Moi, je te dis, moi, je m'en fous. Mais je connais, je peux dire, j'ai mon frère ou ma sœur, bah, lui, il aime la France, mm-hmm. il est tout quoi. J'en connais. Mm-hmm. Non, vous n'existez pas. Oui, mais parce qu'attendez, les banlieusards, ils aiment pas les... Moi, j'ai grandi en banlieue. Enfin, je suis la banlieue. Oui, non, mais attendez, parce que les Noirs, qui est de quoi tu parles? Enfin, à chaque fois, pour moi, c'est une négation de ta, mm-hmm. de ta propre existence. Mm-hmm. Tu n'existes pas. C'est comme si, oui, non, mais parce que les pauvres, oui, mais les pauvres, ils sont mal éduqués, nanana. Ben, moi, je suis née pauvre, j'ai grandi pauvre et comment dire, je sais pas, je suis devenue, j'ai fait des études, je suis docteur. Non, c'est pas vrai. Mm. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ben, si, c'est possible. Et si tu dis que c'est pas possible, ça veut dire que je n'existe pas.
Oui, c'est ça, c'est nier complètement.
Nier. Et ben, c'est ça, la déshumanisation. T'as pas droit à la complexité, comme t'as dit, comme dans les représentations. Mmh. C'est pour ça qu'on va regarder des films ou des séries ou des représentations dans les médias qui n'ont pas de sens. Mmh. Parce que on les imagine, ces gens-là, seulement d'une certaine façon, vraiment unidimensionnelle. Mmh. Et ils ont pas le droit à la complexité qui est, que l'on offre ou que l'on admet pour la blanchité. Mmh. La blanchité, en fait, c'est l'humanité pleine et entière. C'est pas que la peau blanche. Mmh. C'est être un être humain. Mmh. Et tout ce qui n'est pas blanc, c'est-à-dire hors blanchité, mmh. c'est moins d'humanité. Mmh. Donc, moins de complexité. Mmh. Et donc, bah, tu deviens moins intéressant en tant que personnage, moins, je sais pas, t'es dans un film et ton rôle, c'est d'être noir.
Voilà, c'est ça. On cherche noir pour un film.
Donc on s'en fout, est-ce que t'aimes, je sais pas moi, les flageolets, les choux-fleurs ou le tchèp? Est-ce que t'habites à la campagne ou comment dire en ville? Est-ce que, enfin, toutes ces questions, elles comptent plus. Toi, ton taf, c'est d'être noir. Et noir, ça veut tout dire de toi. Et ça veut pas dire qu'on se définit pas comme noir. Enfin, moi, je suis noir, mais je suis noir, ça veut dire plein de choses en fait. Noir, c'est un truc. Je suis noir comme je suis maîtresse de conférence, comme je suis, je sais pas moi, aujourd'hui banlieusarde, comme je suis une femme, comme j'aime les pâtes, comme.
Oui, c'est ça.
Mais en tout cas, je suis noire aussi. Mm-hmm. Et vous allez pas me dire que ça se voit pas. Mm. Parce qu'il y a plein, non, mais parce qu'il y a plein de choses qui m'arrivent dans la vie qui m'ont montré que ça se voyait. Mm. Et en plus, c'est aussi mon expertise. Mm. C'est ce que j'ai travaillé. C'est ce que j'ai lu. Il y a des gens qui ont pensé ces questions depuis des siècles. Mm. Tu vois ce que je veux dire?
Clairement.
Donc c'est parce que ça, c'est aussi une façon de te décrédibiliser et, tu vois, de dire, oui, en gros, tu parles que de ton expérience. Voilà. Tu vois, tu racontes ta life. Non, j'analyse ma vie, j'essaye de la comprendre. Mmh. Et pour la comprendre, j'ai lu des choses, j'ai voyagé, j'ai... Voilà, enfin, c'est un taf. Mmh.
Mais tu vois, quand tu dis ça dans justement ton livre, Le Triangle et l'Hexagone, tu le dis très bien, en fait, aussi, que on voudrait dire que dans la recherche pure, on enlève, en fait, une partie de soi et qu'on serait complètement au-dessus de tout ça, rien de soi. Mais comment tu fais pour te dédoubler et pour enlever la personne qui écrit à ta place, qui, enfin, ta pensée, qui
fait quel luxe. Quel luxe, parce que comment tu fais pour faire des études déjà quand, tu sais, je sais pas, moi, je vraiment, à mon époque, par exemple, j'avais pas d'ordinateur parce que j'avais pas d'argent pour donc la question financière, la question sociale, elle est, c'est pas que des concepts pour moi. C'est une vie que il faut que j'aille dans tel endroit où il y a quelqu'un qui va me prêter un ordinateur, où enfin tu vois, où on étudie ça à la fac, il faut que j'aille acheter le bouquin, mais j'ai pas la thune pour le bouquin, ou là il faut que je travaille d'ailleurs constamment, il faut que je travaille, mais il faut que mes horaires comment dire correspondent à mes heures de cours et tout ça. On pratique ces questions et on les étudie aussi. Donc viens pas me disqualifier, enfin tu vois. Bien sûr que tu peux partir de ton expérience parce qu'elle est assumée et me dire, ouais, moi, tu te situes. Moi, je viens de là, je suis ici et j'ai tendance à regarder les choses comme ça et j'ai quelque chose à dire. Ce que j'aime pas, moi, c'est l'escroquerie de cette neutralité, genre, alors que tu n'assumes pas ta situation, tu vois, de la manière dont toi-même tu es situé, et tu fais genre que ton positionnement, c'est le positionnement.
En plus, dans cette neutralité, c'est clairement pour empêcher certaines personnes, en fait, de produire, de parler et d'être prises au sérieux. Parce que la neutralité, ça voudrait dire être blanc, parce que puisque si on est noir, on n'est plus neutre. être aisé peut-être, puisque si on est pauvre on est plus neutre. Si on est, voilà. Donc en fait la neutralité ça voudrait dire tout sauf un certain type de personnes
et de toujours les mêmes personnes.
Voilà, c'est ça.
Toutes des mêmes personnes qui sont mal positionnées sur ces hiérarchies qui sont créées de toutes pièces pour justifier, pour légitimer l'ordre du monde.
Et pourquoi, par exemple, quand c'est un homme blanc qui étudie justement le problème du racisme en France, il serait plus enclin dans ces cas-là? Est-ce que ce serait à nous, personnes noires, d'étudier en fait le comportement des personnes blanches pour être sûr qu'il y aurait une neutralité?
Les races n'existent pas. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Comme c'est pas un homme blanc qui étudie, c'est un homme.
Oui, mais donc t'es pas une femme noire qui étudie, t'es une femme.
Ah. En tout cas, le noir ça se voit, le blanc moins. Et c'est ça le privilège ultime de la blanchité, c'est l'invisibilité. Mm. C'est que t'es la norme, on te voit pas. Il y a un homme noir, c'est pas la, on dit pas la même chose. Et si on dit un homme, ça veut dire qu'on parle pas d'un homme noir. On n'en est pas là, tu vois. Donc tout ce qui est pas blanc, c'est ça qui est visible. C'est le blanc qui est invisible. Et c'est là le confort, c'est ça le privilège, l'invisibilité. Parce que c'est toi la norme. On n'a pas à te spécifier, on n'a pas à te caractériser. Tu vois, on n'a pas à te qualifier. Donc c'est normal que tu te dises bah oui, je suis pas un homme blanc, je suis juste un homme. Mais alors si toi t'es juste un homme, d'où vient je sais pas moi la femme noire? Elle existe? Bah oui, la femme noire c'est toi. Ah bah alors, mais qui sont les blancs alors? Tu vois, puisque c'est vraiment des choses qui ont été créées en binarité. C'est de la mauvaise foi.
Clairement.
Tu vois, mais de la mauvaise foi pratique quoi, c'est de la mauvaise foi qui permet le maintien du, enfin, le statu quo. On n'interroge rien, on ne change rien, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas, alors qu'il y a des gens pour qui clairement il y a un problème. Il n'y a peut-être pas de problème pour toi, mais je veux dire, il y a plein de gens où tu te dis, mais bien sûr qu'il y a un problème, vous êtes fous, quoi. C'est quand les gens vont te dire, ah, oh, mais non, mais à la télé, on voit de plus en plus, je sais pas moi, de gens pas blancs, tu vois. Il y en a de plus en plus, calmons-nous, tu vois. C'est juste que avant, vous aviez pas l'habitude d'en voir. Mais si vous qui dites que vous êtes aveugle à la race, comment tu peux te rendre compte qu'à la télé, il y a plus de gens pas blancs? Si avant, tu voyais pas que les gens... Parce que nous, on a toujours vu qu'il y avait que des blancs. Pour les autres, c'était clair, c'était net. Il y avait que des blancs. Et vous vous dites, mais non, moi, j'avais pas remarqué. Et maintenant, on a mis, je sais pas moi, deux robeux, un renoir et tu pètes les plombs.
Il y en a trop.
Bah alors, tu les vois ou tu les vois pas?
Faudrait savoir, quoi.
Non,
mais c'est ça, c'est de la mauvaise foi, en fait.
Non, c'est de la mauvaise foi, mais pratique, tu vois, c'est de la mauvaise foi stratégique. Parce que c'est de la dénégation. Comme ça, tu n'as rien à changer. T'as pas à te poser de questions. Tu te poses pas de questions, parce que si tu commences à poser des questions, tu changes tout, c'est tout. Si tu commences à poser des questions, c'est la révolution. Si tu commences à poser la question, c'est au moins la réforme. Si tu parles vraiment, si tu crois vraiment à la justice, l'égalité, l'équité. Vraiment, si tu veux en faire plus que des mots d'ordre, si tu veux vraiment les mettre en pratique, bien sûr qu'il faut changer cette société.
Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent, que ce soit en fait les jeunes qui nous écoutent ou les parents, ou voilà, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour tout ce qui est chemin scolaire et pour tout ce qui est parentalité?
Qu'est-ce que je peux conseiller de ma perspective de folle, là, de 45? Non, qu'est-ce que je peux... Franchement, de tenir bon. Tenir bon, être courageux, comprendre les règles du jeu, les comprendre. Parce que c'est seulement les comprenant qu'on peut y résister, qu'on peut les contourner. Moi, j'ai contourné plein de trucs. J'ai réussi à voir ce que je voulais avant. J'ai voulu avoir ce après quoi je cherchais, ce après quoi je courais, pardon, mais pas... Mais tout de travers, enfin rien, j'ai rien de classique, mais j'ai pas lâché, tu vois. Il y a un élément de chance aussi, parce que c'est tellement dur que je comprends que tu lâches. Mais peut-être que le conseil le plus important, c'est de ne pas se dévaloriser et de ne pas dévaloriser les choses qui viennent de chez nous. Tu vois, c'est pas parce qu'elles sont pas mises à l'honneur, c'est même pas parce qu'elles sont pas étudiées qu'elle ne mériterait pas d'être mise à l'honneur ou étudiée. C'est juste qu'on n'a pas gagné ces victoires-là. Mais je trouve que le truc de ce désamour et cette distanciation de tout ce qui vient de nous, parce que c'est pas bien, c'est pas précieux, c'est pas le truc des winners, tu vois, réussir à résister à ça et à prendre la tête aux institutions pour que elle les incorpore. Mm. C'est vraiment force et courage à tout le monde, mais c'est agression sur agression. Et le but, c'est de ne pas être agressé. Mm-hmm. Donc, faut se battre parce que tout ce qu'on gagnera, ça sera des batailles en moins pour ceux derrière, qui pourront pérenniser tous ces acquis, les institutionnaliser. Et voilà, pour les parents, faut accompagner les enfants, les croire, les aimer, j'imagine, et les représenter devant l'institution, être avec eux face à l'institution. Après, les enfants non plus sont pas des anges tout le temps et tout,
oui,
ça,
bien sûr. Mais
ce sont des enfants et ils sont à protéger et l'institution est un peu agressée aussi. Donc pour si les parents ils arrivent à les accompagner, à accompagner les enfants, mais pas seulement les forcer à faire ci ou ça. Les enfants, ils peuvent pas. Soit ils sont doués naturellement et voilà, ils font les choses à l'école. Mais quand c'est compliqué à l'école, ça peut aussi vouloir dire autre chose. Mmh. Et le côté, je trouve, un peu commun chez nous, genre, l'école c'est important, t'as fait tes devoirs, tu sais, non, s'il aime pas, il les fera pas. Il faut qu'il y ait de l'amour. Mmh. Il faut que ça veuille dire quelque chose. Que tu dis, je sais pas, moi, par exemple, peut-être que c'est moi qui suis coincé dans ma propre expérience, mais moi, j'étais bonne en langue vivante et dans d'autres matières, mais en langue vivante, parce que je voulais voyager. Mmh. Que apprendre une langue, ça te permettra de communiquer avec plus de gens ou de communiquer avec des gens ailleurs. Pas seulement, j'ai eu un 18 en anglais et c'est tout. Mmh. Tu vois, oui, ce
il
truc
faut que ça puisse le servir dans quelque chose.
Exactement,
qu'il aime,
que c'est pas le truc de juste on peut ne pas aimer l'école, c'est le boulot. Les enfants, c'est pas des oufs, ils savent très bien que l'école c'est l'usine. Bah attends, ils préfèrent jouer toute la journée, ils savent très bien que l'école c'est le début de la fin. Non, tu vois qu'au début t'as une liberté qui dure 3 ans et qu'après faut que tu te lèves le matin, que tu fasses des trucs, tu respectes des horaires. Donc ils sont pas fous, ils savent très bien. Et on te force dans un truc. Donc si ça doit se passer, bah qu'on les laisse s'exprimer. Et l'école, elle est pas toujours bonne dans ça, mais que les parents puissent le comprendre. Tu vois, puissent se comprendre et les accompagner pour que ça soit le moins douloureux possible, ou de les mettre même dans des filières qui leur conviendraient mieux.
Là où ils auraient des intérêts, en fait.
Voilà, ouais. Tu vois, d'accepter ça, que c'est pas... L'école, c'est juste un format. Hein. Il y a d'autres formats. Il y a plein de formes d'intelligence. C'est... ouais, ça, je trouve que c'est important. Moi, j'ai eu la chance de bien aimer l'école. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui ont eu de graves problèmes avec l'école, qui n'ont pas aimé l'école et que l'école n'a pas aimé non plus. Et ça peut causer des séquelles sur le très très long terme, en termes d'estime de soi, et puis en plus t'imagines financièrement et tout ça, ce que ça veut dire avoir un diplôme, ne pas avoir de diplôme quand t'as pas d'argent. Mais ça conditionne ta vie. C'est la question qui va gagner le SMIC et qui va gagner plus que le SMIC.
C'est vrai. C'est tout de suite ça.
Non, mais c'est ça. Et ce que tu vois pas à 18 ans, tu le fais. À 38 ans, t'inquiète pas, tu sauras où t'en seras dans ta vie. Et à 58, pareil. Il y a des différences, des inégalités, elles se creusent avec les années. Qui a eu le bac, qui n'a pas eu le bac, ou tu prends une génération, je sais pas, d'élèves en terminale et tu regardes 20 ans plus tard, que sont-ils devenus et combien ils gagnent. Et pas pour dire que plus t'as de diplôme et mieux t'es payé. Parce que moi, je suis docteur et je peux vous dire que il y a plein de gens qui sont pas docteurs et qui sont grave mieux payés que moi. C'est pas ça. Mais en tout cas, je sais que je gagne pas le SMIC. Il y en a, ils sont assurés de gagner le SMIC. Faut que les parents soient avec eux et arrêter. Enfin, moi, je fais partie de cette génération d'immigrés où t'as fait tes devoirs, t'as pas fait. Enfin, tu vois, les devoirs, quoi. Si on dirait la police. Moi, je me dis, j'ai bien réussi à l'école aussi parce que j'aimais l'école.
Oui, mais pour faire aimer l'école, il faut que ça soit quelque chose de sympa, en fait. Pas une obligation et une torture.
C'est pas la torture, en tout cas. Après, faut pas se mentir, tu vois, tu taffes. Enfin, moi, je veux dire, tu bosses, hein, dans la vie. Y a pas de, même, surtout les trucs que t'aimes, quoi. Il faut, tu vois, faut être courageux. Le truc de notre société aujourd'hui, tout dans la facilité, la rapidité, tout ça, c'est pas ça. Mais quand t'aimes quelque chose, tu peux t'investir et passer du temps dessus. Et l'école, ça peut être fun, tu vois. C'est pas plus c'est dur et mieux c'est. Travailler, par exemple, une matière à fond parce que tu l'adores. C'est tout. Et là, c'est plus du travail.
Bah, écoute, merci à toi, Maboula. Merci d'avoir accepté de participer encore une fois au podcast.
Merci, Prisca.
Et puis, je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'écouter Les Enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.